misère. Liberté, liberté, liberté.
Alors, bien oui, on vient d'entendre la fabuleuse chanson « Le cœur est un oiseau » de Richard Desjardins. Et ça nous amène à parler avec notre premier invité. En fait, là, vous avez compris que je change un petit peu l'habitude ici parce qu'on fait les unes et les par actualité à cette heure-ci. Mais notre invité avait besoin qu'on lui parle plus tôt parce qu'elle avait des engagements. Donc, on va la prendre tout de suite. Alors, ma première invitée, c'est la metteuse en scène et comédienne et directrice artistique du théâtre L'Œil ouvert et de la pièce qui s'appelle « L'effet Lisa ». Elle s'appelle Jade Bruno. Elle est chanteuse aussi, vous devriez l'entendre. Et c'est un théâtre musical donc ambitieux, librement inspiré de l'œuvre monumentale et engagée de Richard Desjardins. Donc, « L'effet Lisa ». Bonjour Jade, bienvenue à Canalem.
Bonjour, bon matin.
Bon matin. Hey, avez-vous eu le temps de... Attends, je vais te soigner, on se connaît. As-tu eu le temps de te reposer? Parce que c'est vraiment un gros show, là. Puis t'es présente sur scène tout le temps, là.
Absolument. Bien, on avait un spectacle samedi après-midi, donc j'ai eu la journée d'hier là, pour me reposer.
Ah, bravo, bravo. Je dis ça parce que, vous allez voir, on va en discuter un peu si on a le temps dans le courant de l'entrevue, mais le théâtre de l'Œil ouvert fait beaucoup de spectacles et des choses très intéressantes. Et Jade est souvent sur scène avec des gros rôles, en plus de faire plusieurs autres fonctions là, dans la présentation de ses œuvres. Bon, on y va. Le théâtre de l'Œil ouvert, Jade, c'est reconnu ou connu pour... porter des projets centrés sur des figures féminines fortes ou des thèmes féministes. Qu'est-ce qui a poussé cette fois-ci, pour la première fois, à bâtir un spectacle complet autour donc de l'univers de l'artiste masculin, Richard Desjardins?
Ben oui, absolument. C'est une très bonne question. Dans les dernières années, on a travaillé autour de l'œuvre de Diane Dufresne, oui, de Clémence Desrochers. On a raconté la Poune, même la Corriveau. Et là, cette fois-ci, ben, on avait envie d'abord de parler d'un sujet qui est très brûlant d'actualité, j'ai envie de dire.
Oui.
On était nous-mêmes habités par les enjeux environnementaux, les feux de forêt et la situation de notre forêt boréale. Donc, rapidement, on a pensé à Richard Desjardins. Mais pour moi, il y avait là une corrélation, en fait, j'ai envie de dire une parenté directe aussi avec les femmes, parce que pour moi, Richard Desjardins a chanté les femmes comme personne. C'est-à-dire que dans l'univers de Richard Desjardins, les femmes sont fortes, elles sont puissantes, elles sont en pleine possession de leurs désirs, elles ne sont pas menaçantes. Au contraire, on sent chez lui une admiration pour les femmes. C'est pour moi les plus belles chansons d'amour que le Québec a pu avoir. Et ben, ils sont pas non plus fleurs bleues. Il n'y a pas quelque chose de romancé, de princesse, de Disney. Au contraire, c'est brut, c'est cru. Il y a quelque chose qui... Il y avait là une matière, un terreau fertile pour nous. Donc, on a plongé là-dedans à pieds joints, puis on a eu la chance et le grand privilège d'avoir son accord et sa carte blanche. Donc, pour nous, c'était vraiment une grande, grande joie. Puis là, ça fait déjà 3 ans qu'on est plongé dans ce projet-là. Et on a commencé les représentations le 10 juillet. Mmh. On rencontre le public et c'est la folie furieuse.
Ah oui, ça marche. Les gens dans la salle, moi, j'entendais mes voisins fredonner les chansons à tout bout de champ, oui.
Ah oui, non, c'est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose de magique. Je pense que les gens qui viennent voir le spectacle sont bien sûr des gens qui aiment le théâtre, certains qui nous suivent, le théâtre musical, le théâtre de l'Œil ouvert. Mais on a aussi la chance de rencontrer le public de Richard Desjardins, qui est un public exceptionnel. Puis tout ça, ben ça crée des moments de magie. Là. J'ai envie de vous dire que quand on entend les 3 premières notes de « Tu m'aimes-tu »,
oui,
la salle arrête de respirer. Là.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Jade, on n'est pas dans la simple biographie ici, mais c'est plutôt un tricot narratif très original, hein, avec des personnages inventés et des répliques issues de ses chansons, de ses documentaires, de ses entrevues. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce qu'on fait pas c'est pas la biographie de Richard Desjardins qu'on voit ici, là?
Absolument. On n'est pas dans une revue musicale ou dans un spectacle biographique. On s'est vraiment permis d'inventer une toute nouvelle histoire, donc d'écrire une fiction à partir de ses chansons et des personnages qui sont dans son œuvre. Donc, on retrouve le bum, le bon gars, mmh, Jenny, la femme de ménage, la serveuse du Boomtown Café qu'on appelle l'enracinée, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, je l'ai dit, et l'homme du camp qui, lui, est une espèce de... ce personnage mystérieux qui est à la fois peut-être une représentation de Richard Desjardins, puis lui, il jase avec la lune, qu'on a appelée Lisa, de la chanson « L'effet Lisa ». Donc, on est en plein cœur de Company Town, qui fait référence à une ville bien connue, et puis les personnages se trouvent en plein cœur d'un feu de forêt, et tout au long de l'histoire, on se demande d'où vient le tison qui a tout allumé ce feu-là, comment ça qu'il y a un feu, et on réalise que c'est une succession de petits feux. C'est parce qu'on s'aime, on se déchire, on meurt, on est. C'est nous qui mettons le feu. Donc, on est évidemment dans de la poésie. On est évidemment dans un univers un peu décalé. On aborde tous les thèmes chers à l'œuvre de Richard Desjardins, la forêt boréale, l'environnement, la fonderie Horn et aussi les premiers peuples, les autochtones. Tout ça est au cœur du spectacle. Et puis, ben, je pense qu'on réussit à tisser une fresque assez fidèle à son univers. Tout en se le réappropriant. Donc, si les gens veulent entendre des covers identiques, c'est peut-être pas avec nous qu'ils vont pouvoir le faire, mais par contre, ils vont entendre Richard Desjardins comme ils l'ont jamais entendu et d'une façon nouvelle qui donne des frissons de la tête aux pieds.
On parle donc de cette ville fictive Company Town, comme tu as dit. En quoi le contexte écologique, là, de ce spectacle, reflète-t-il l'urgence? Parce que là, on est vraiment dans l'urgence présentement. Des feux de forêt, il y en a partout. Puis on le voit le matin en se levant. Finalement, il y a comme une espèce de convergence de l'actualité et de votre spectacle.
Ouais. Absolument, ça donne des frissons. C'est vraiment particulier. Puis quand on a eu l'idée de parler de ça il y a 3 ans, c'était une année déjà record en termes de feux de forêt au Canada. Puis on se dit, oh mon Dieu, on souhaite que ça diminue. Mais en même temps, là, les années ont passé, puis ça se maintient d'année en année.
Ben
c'est pas que ça empire. Donc, c'est assez particulier pour nous de raconter une histoire qui prend place en plein cœur d'un feu de forêt pendant que notre ciel est lui-même rempli de cette fumée-là. Je pense que, évidemment, nous, dans le spectacle, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans les statistiques, on est dans de la poésie, on est plus dans ressentir ou dans quelque chose de sensoriel pour aborder tout ça, parce que notre intérêt n'est pas nécessairement de générer plus d'éco-anxiété, mais plutôt de mobiliser les gens autour d'une urgence d'agir, mais dans un esprit d'espoir, parce que on a besoin d'espoir, sinon c'est trop dur d'avancer au quotidien. Donc, notre volonté, c'est quand même de faire en sorte que les gens quittent la salle en ayant envie de prendre soin de la terre, des femmes, des communautés autochtones, de notre langue et de pourquoi pas de un de nos plus grands poètes, de sa musique et de ses textes.
Un choix de mise en scène ou de scénographie intéressant. En plus des comédiens chanteurs, on retrouve aussi sur scène le pianiste Marc-André Perron et le violoncelliste classique là, Stéphane Tétrault. Pourquoi ce choix de les mettre dans le show, qu'on les voit, qui sont là omniprésents tout le temps?
Bon, j'ai envie de vous dire en toute humilité que ça, c'est ma petite idée de génie.
Écoute, on a le droit d'avoir cette petite humilité-là, s'il te plaît.
Ben, Marc-André Perron, faut dire que c'est le pianiste et le directeur musical avec qui on a travaillé dans les 6 dernières années pour faire les arrangements de tous nos spectacles. Donc, c'est une histoire déjà qui dure et qui traverse les années artistiquement. C'est un grand musicien, c'est un immense pianiste et c'est un artiste qui a énormément de sensibilité pour accompagner des interprètes comédiens-chanteurs. Donc, pour moi, le choix était tout indiqué. Et en discutant avec Marc-André, à un moment donné, j'ai eu l'idée de Stéphane Tétrault parce que Richard Desjardins a souvent dit « L'arbre le plus payant, c'est celui dans lequel tu fais des violoncelles. » Puis là, je me disais, ben nous, on pourrait avoir un violoncelliste avec nous sur scène, puis qui est au cœur de la scénographie avec son instrument magnifique, en plein cœur d'une forêt décimée, brûlée. Il me semble que ce serait beau. Et là, un jour, ben, je découvre Stéphane Tétrault et son immense talent. Et là, je me dis, bon, là, on a ici un musicien étoile qui joue sur un instrument qui appartient à un autre monde. Parce que Stéphane, son Stradivarius, il date de 1707. Mm-hmm. Ça n'a pas de bon sens. C'est un des 12 violoncelles les plus rares et les plus prestigieux dans le monde. Et là, il est avec nous sur scène. Puis, j'ai envie de vous dire que Stéphane Tétrault, quand il joue, il danse. C'est fascinant de le voir jouer. Il y a une présence, mon Dieu, magnétique. Et avec les interprètes qu'on a sur scène, c'est comme un dialogue.
Oui. Mais en fait, on dirait qu'ils font partie du show. Quand on est dans le café, on a l'impression qu'ils sont là, puis ils font partie du show, puis... Alors, c'est sûr que s'ils avaient juste été là pour jouer, ça aurait peut-être pas passé, mais le fait qu'ils sont là, puis qu'ils jouent avec les autres interprètes, ça ajoute, là.
Ben absolument, ils deviennent des personnages. Mm-hmm. Des fois, je leur dis, savez-vous un shooter, là? Puis là, ils prennent un petit verre au travers tout ça. Mais pas un vrai, là, on s'entend, ouais. C'est du théâtre. Mais c'est vraiment très agréable de les avoir avec nous. Puis je pense que pour Stéphane, c'est une nouvelle expérience, puis tout ça, c'est bien enrichissant pour tous les membres de l'équipe.
Alors, moi, j'ai vu Jean-François Casabonne, que je connais comme artiste, comme comédien. Je connaissais moins ses talents de chanteur. Pour moi, ça, c'était une découverte.
Mais il est formidable. Ah, je ne pouvais pas rêver mieux pour mon homme du camp. Ah, Jean-François Casabonne, il a une façon de croquer dans les mots qui est rare. Il interprète, il incarne la poésie au complet. Donc, évidemment, j'ai toujours besoin d'avoir des interprètes qui savent chanter. On fait du théâtre musical. Mais ma priorité, c'est toujours d'avoir d'abord des interprètes, des comédiens, comédiennes de pointure. Ouais. Parce que c'est des petites distributions. Tu sais, on est quand même sept, à sept, pour tout faire, les rôles, pour faire les chœurs, pour tout défendre, ça prend des gens qui ont beaucoup d'agilité. Mm-hmm. Et puis, Jean-François correspondait tout à fait à ça. Mais en plus, il a cet amour de la poésie, cet amour des mots qui fait en sorte que lorsqu'il nous fait l'effet Lisa au tout début du spectacle, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tous les soirs, je me dis, quel privilège. C'est vraiment un grand comédien. Quelle belle voix. Tout est comme dans mes rêves les plus beaux.
Je vais prendre un petit peu de temps pour parler aussi qu'au-delà de la scène, la production là, fait vraiment son effort au niveau écologique, parce qu'on prévoit même une plantation d'arbres en 2027 pour compenser l'empreinte carbone du show. C'était important, c'était une condition. Pourquoi vous avez fait ça?
Bien, en fait, on essaie toujours au Théâtre de l'œil ouvert de... Bien sûr, notre mission, c'est de créer, de produire et de diffuser des spectacles. Bon, on pourrait s'arrêter là. Mais pour moi, pour Simon Fréchet-Daou, qui est à la co-direction artistique avec moi, on dirait qu'on essaie toujours de trouver une façon d'utiliser l'art comme une occasion aussi de rencontre. Donc, tout au long du processus de création, on fait des rencontres de médiation culturelle, on fait des tables rondes, on en profite pour faire se rencontrer les artistes et les citoyens et les citoyennes. Donc, parfois, par exemple, dans le processus de la Corriveau, la soif des corbeaux, on avait rencontré des femmes victimes de violences conjugales, on est allé dans des centres de femmes. On essaie toujours de... Ça, le public le voit pas nécessairement, mais pour nous, c'est comme si tout d'un coup, l'art devient utile et l'art devient vraiment essentiel, autant avant, pendant qu'après la diffusion du spectacle. Et cette fois-ci, avec Richard Desjardins, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au-delà du show pour être cohérent dans notre démarche puis aller jusqu'au bout? Donc, on a eu envie de rencontrer des biologistes, des experts en environnement pour s'assurer que ce qu'on disait, c'était juste. Et puis, ça nous a éveillés nous-mêmes sur plein de choses. On a eu envie, dans nos méthodes de production, d'être le plus... vert possible, autant que faire se peut. Donc, de réfléchir à la tournée aussi de façon éco-responsable, d'encourager le covoiturage, de faire du réemploi au niveau du décor et des costumes, c'est-à-dire de réutiliser de l'ancien matériel qu'on transforme. Et puis, tout ce qui a été construit à partir de matériaux neufs, donc à partir de bois, on s'est dit, on va replanter l'équivalent, sinon le double, pour s'assurer que nos forêts continuent de... Mais c'est des petits gestes. Ouais. C'est pas grand-chose en plus, mais c'est le minimum. Si on se dit...
Ouais. Le temps commence à nous manquer. Je vais juste avoir une dernière petite question. Est-ce que Richard Desjardins a vu le spectacle et comment a-t-il réagi?
Pas encore. Il m'a promis qu'il allait venir au moins deux fois, mais je sais pas quand.
OK.
Mais ceci dit, on a 75 représentations partout à travers la province. Donc, d'après moi, il va avoir le temps de venir nous voir d'ici la fin du mois d'avril 2027. Là, on est à Joliette jusqu'à la fin du mois de juillet, début août. Ensuite, on s'en va à Victoriaville tout le mois d'août. On est en septembre-octobre à Québec, à la Bordée. Et ensuite, on prend une grande tournée qui commence à Montréal en janvier 2027 au Théâtre Saint-Denis, avant de s'arrêter dans toutes les villes du Québec. Donc, on est extrêmement privilégiés, heureux. Puis quand Richard va venir, mon Dieu, qu'on va être contents. Mais je pense que je le dirai pas aux comédiens.
Après, justement. Si on veut s'informer, acheter des billets, il y a un site web pour ça?
Oui, l'effetlisa.ca, toutes les dates sont là.
Bon, merci beaucoup, Jade Bruno, puis bon succès, merci.
Merci beaucoup, merci, bonne journée.